Et vous voulez comprendre?
Ah, oh, pas de problème. Je comprends toujours vite quand on m'explique longtemps. Donnez-moi la force de comprendre,
car ces visions me semblent. Martin Carly est avec nous, docteur en sciences neurologiques, co-animateur de l'émission Génial à Télé-Québec. Puis, avant de passer à ton premier sujet,
oui.
J'ai dit quelque chose hors d'onde, puis tu m'as dit, avant de véhiculer des faussetés, il faut que tu te corriges. J'ai dit, j'ai attrapé le rhume.
J'ai dit ça de même. J'ai pas dit ça de même.
Bon, ça ressemblait à ça.
Bon, okay.
J'ai attrapé le rhume. Puis j'ai dit, c'est une variation de température, l'aréna, puis le coup de froid, puis j'ai attrapé un rhume. Tu m'as dit, c'est pas vrai ça, Mathieu.
Non, ben en fait, le rhume est causé par un virus. Là.
C'est viral.
Donc, c'est viral. Donc, c'est pas le froid qui te donne le rhume, tu comprends? C'est plutôt une... on croit que c'est une...
Contracté le virus, puis il est
c'est
là.
C'est ça, exactement. Donc, on croit que c'est plutôt une influence des conditions sur l'habilité de notre corps à combattre ou à résister à une infection, par exemple. Mais c'est pas le froid comme tel qui t'a donné le rhume. Il y avait un virus quelque part, puis peut-être qu'en situation de froid, ton corps est moins apte à combattre ça et tu t'as pincé ça. Ouais.
Merci de me reprendre. c'est correct. Les puces de lit, comment ça voyage?
Écoute, puis là, je vais tout de suite répondre
non,
à ton
truc. Non, j'ai pas le nom à latin.
Non. Oui, mais moi, je l'ai, par exemple. C'est le Cimex Lectularius, pardon. Ça, c'est le nom des fameuses punaises de lit.
Cimex Lectularius.
Lectularius. Lectularius. Ouais, exactement. Ce sont des animaux qui, au départ, semblent assez mal équipés pour faire autant de dommages que ça, parce qu'on parle ici d'animaux qui volent pas, qui sautent pas, qui nagent pas, qui survivent seulement sur le sang, qui sont capables de prélever en mordant. Et le prédateur ultime sur la Terre, c'est qui? C'est l'humain. Hein? C'est le prédateur pour bien des affaires ici. Et justement, le prédateur ultime sur la Terre, l'humain, veut absolument l'éradication de ces petites bébites-là. Donc, on pourrait dire au départ, sont un peu mal placés pour pouvoir proliférer autant que ça. Malgré tout, on voit une expansion globale rapide, donc il y a sûrement un moyen par lequel ils réussissent à étendre leur territoire et à atteindre comme ça des régions du monde.
Je pense pas me tromper de dire qu'il y a une quinzaine d'années, c'était même pas... Ça devait exister, là, mais je veux dire, c'était pas un phénomène qui était si connu que ça, en tout cas des voyageurs.
Non, mais c'est
même.
Ça. Ben, même, on dit que au milieu du 20e siècle, on avait presque éradiqué le problème dans les pays développés. Là. Donc, que ça n'était pas un problème. Par contre, il y a deux facteurs qui semblent avoir contribué au retour en force un peu partout de ces punaises de lit-là. Premièrement, le fait que il y a eu qu'on ait interdit certains pesticides, ça c'est de un. Et deuxièmement, le fait que les voyages en avion se sont démocratisés pas mal. Ouais, c'est beaucoup plus accessible de pouvoir se promener. Donc, ces punaises de lit-là peuvent faire du pouce. Mais là, il faut faire attention. Avec cette étude-là, on a une meilleure idée de comment elles voyagent, ces punaises de lit-là. Pourquoi? Parce que premièrement, au contraire des poux ou des tiques, elles ne vont pas rester sur leur hôte. Donc, lorsqu'on quitte le lit, là, les punaises se promènent pas toute la journée avec nous autres. Les punaises de lit ont tendance, sauf exception, à demeurer dans le lit et attendre qu'on revienne pour nous mordre à nouveau et se nourrir à nouveau. Donc, il y a un autre moyen de transport qu'elles doivent utiliser pour pouvoir proliférer comme ça. Et ce moyen de transport-là, ben, on a une bonne idée maintenant. Il y a bien du monde qui vont capoter ce matin. Il semble que ce serait nos vêtements sales, Mathieu.
Ah.
Nos vêtements sales, rien de moins. Alors, qu'est-ce que les chercheurs ont fait pour pouvoir déterminer ça? Ben, ils ont mis une cage avec des punaises de lit au centre d'une pièce et ils ont placé à une certaine distance, une distance égale, de part et d'autre de cette cage-là, deux sacs de coton remplis de vêtements. Dans un des deux sacs de coton, il y avait des vêtements propres et dans l'autre, il y avait des vêtements sales. Ils ont laissé les punaises de lit explorer à leur guise l'environnement, la pièce où il y avait ces conditions-là. Et après 96 heures, ils ont compter le nombre de punaises de lit dans les deux sacs de coton et ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de deux fois le nombre de punaises de lit dans les vêtements sales par rapport aux vêtements propres. Donc, il y a quelque chose qui les attire dans les vêtements sales, ce qui fait du sens parce qu'on avait déjà déterminé que les punaises de lit sont attirées par une centaine de composés qui sont produits par la peau humaine.
Et il y a des résidus de peau morte dans le linge sale.
Exact. Mais en plus, certains de ces composés-là que les punaises de lit peuvent sentir peuvent demeurer plusieurs jours dans les vêtements tant qu'on les a pas lavés. Donc, on peut carrément dire, OK, il y a un attrait pour l'odeur humaine, si tu veux. C'est comme si, là, on sait que peut-être qu'ici, on a des chances d'aller manger. Donc, elles vont y aller. Évidemment, on se dit que il y a certains insectes qui sont, comme les moustiques, sont attirés par le gaz carbonique qu'on expire. Mm-hmm. Donc, on a voulu savoir est-ce que le gaz carbonique pouvait favoriser cette détection-là au niveau des punaises de lit pour les vêtements sales, donc qui avaient de l'odeur humaine. Alors, on a refait la même expérience, mais avec du gaz carbonique en plus grande quantité, en fait, en une concentration qui respecte les concentrations qu'on retrouve dans notre haleine. Et on s'est rendu compte que ça stimulait l'exploration, donc ça déclenchait l'exploration chez les punaises de lit. Par contre, le résultat n'était pas différent. Donc, il y avait pas plus, elles n'étaient pas plus attirées par les vêtements sales quand il y avait plus de gaz carbonique dans la pièce que quand il y en avait moins. Donc ça, c'était plutôt, ça déclenchait, peut-être que ça permettait aux punaises de lit de dire, hé, hé, je pense qu'on va manger parce que on détecte le gaz carbonique, mais il y en avait pas plus là dans les vêtements sales. Alors qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Parce que les auteurs nous donnent des recommandations. Alors recommandations, c'est quoi? Premièrement, les fameux supports à bagages dans les chambres d'hôtel qui sont en métal, il faudrait absolument les utiliser. Pourquoi? Parce que les punaises de lit ne sont pas capables d'escalader des surfaces lisses. Donc le métal des pattes de ces supports-là, elles ne sont pas capables de l'escalader. Donc il faut absolument utiliser ça, premièrement. Deuxième recommandation, si vous avez des vêtements sales dans votre valise, ce serait le fun de se traîner un sac hermétique. Donc, on peut enfermer ces vêtements sales-là dans un sac hermétique. Le problème de ça, c'est que c'est quoi? C'est que la valise, probablement, aussi a des odeurs de nos vêtements sales. Donc, il faudrait peut-être envelopper notre valise dans un sac hermétique aussi. Pas mal moins pratique, on s'entend.
Et si tu mets dans la salle de bain, souvent, c'est tout en céramique.
Ouais, ben c'est ça. En hauteur, et si l'accès est une surface lisse, c'est pas mal ça la meilleure solution, parce qu'on nous dit aussi que l'ennemi le numéro un des punaises de lit, c'est la chaleur. Donc si on est capable de les exposer à la chaleur, on risque de les tuer. Donc on est-tu capable d'avoir une chaufferette portative? Ben là, on s'entend que c'est rarement une solution pratique là pour essayer de les tuer.
La torche au propane.
Mais la recommandation numéro un, en plus du support en métal, c'est quoi? On ne met jamais les bagages sur le lit, jamais, parce que là, on leur donne une autoroute directe vers nos vêtements et on les rapporte à la maison et là, on se retrouve avec des troubles à pu finir, jeter le matelas, décoller toutes les bibliothèques des murs, ben ainsi de suite. Il n'y a pas de fun à avoir des punaises de lit à la maison.
Non. Hein? 10h49, dans un instant, la suite, on se parlera de chocolat. Avec Martin Carly, aux Nouvelles Scientifiques, la création d'un nouveau type de chocolat.
C'est une première en presque 100 ans parce que évidemment on connaît le chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc. Mais là, on parle vraiment ici d'un nouveau type. Donc, ce serait le quatrième type de chocolat, le chocolat rubis. Il est de couleur rose. Écoute, et ce qui est intéressant ici, c'est pas un... Parce qu'on a déjà vu, hein, vous pourriez me dire, ouais, mais il me semble à part que des chocolats de toutes sortes de couleurs, on a vu. Là.
Ça, c'est de la teinture. Mais ça,
exactement. C'est des chocolats qui ont été colorés avec des colorants alimentaires. Ici, on parle vraiment d'un chocolat qui est rose parce que la fève
est
rose.
Bon terme, c'est plus du colorant que de la teinture.
Ça, c'est de la teinture, puis je le mange pareil.
Pas grave, c'est bon, mais
c'est pas grave. Écoute bien, hein? On ne sait pas à quel âge on va mourir. Alors, c'est que ça change. Donc oui, on parle ici d'un chocolat rubis parce que la fève elle-même, elle est de couleur rubis, donc elle est rose. D'accord. Donc c'est franchement très, très intéressant. On en sait peu. Je trouvais que c'est une nouvelle vraiment très, très intéressante, mais on en sait peu, mais on va en savoir beaucoup plus très bientôt parce que ceux qui ont développé ce chocolat, ils l'ont dévoilé dans un événement très spécial à Shanghai, il y a quelques jours à peine. Et là, ils ont envoyé de très grandes quantités de ce chocolat, de nouveau genre de chocolat, à plusieurs endroits dans le monde, auprès de chocolatiers, pour qu'ils puissent le travailler, pour qu'ils puissent proposer au public des façons intéressantes de pouvoir déguster ce chocolat-là. Parce qu'il est pas juste rose, il y a un goût qui est particulier aussi. C'est un goût qui est plus sûr et qui est plus fruité, donc c'est carrément un goût différent. Tu vas avoir un autre type carrément de chocolat, donc il peut y avoir des gens qui vont préférer ce chocolat plutôt qu'un autre, comme n'importe quel... une de mes filles, moi, le chocolat blanc, c'est elle aime ça, mais tous les chocolats bruns, elle les aime pas. Donc, c'est vraiment question de goût. Est-ce que le chocolat rose va vous plaire ou pas? Donc, c'est ce qu'il faudra suivre. Franchement, je trouve ça très, très intéressant. Sa composition est toujours mystérieuse. Donc, plus on y aura accès, plus on aura d'informations sur ce type de chocolat-là. Mais vous pouvez aller le voir sur Instagram, donc ceux qui l'ont créé. Ont donné le montre en photo et tout ça. Faut aller voir sur Instagram. On parle du chocolat rubis. Donc R-U-B-Y de son nom anglais, bien entendu, comme la pierre précieuse. Donc le rubis. Voilà.
Le reste, et il nous reste à peu près une minute, les restes d'un grand guerrier viking, Il s'agirait d'une femme.
Absolument. On parle ici du guerrier Birka. Donc, c'est une tombe célèbre qui où on retrouve les restes d'un guerrier viking. C'est dans le sud de la Suède. Ses restes remontent à environ 1000 ans. Et on a assumé jusqu'à maintenant que c'était un homme. Parce qu'on se dit, un guerrier, on est dans l'héritage des vikings et ainsi de suite. On a assumé que c'était un homme et tout ça. Et là, on parle vraiment là, d'une tombe remplie de richesses avec des épées, deux chevaux qui avaient été sacrifiés et tout ça. Eh bien, il s'agit d'une femme. Preuve à l'appui maintenant avec des tests d'ADN. On avait assumé que c'était un homme, mais c'est une femme grâce à l'ADN. Le mystère est résolu. Alors, il va falloir enlever peut-être des petits biais misogynes une fois de temps en temps.